Sur le pont des arts, Nathalie Amard.
Bonjour à toutes et à tous. Le chant, la danse, la contrebasse et la puissance des textes, la puissance des gestes aussi, car sur scène, tout est aussi simultanément interprété en direct en langue des signes. Voici Black Label, un spectacle comme un plaidoyer contre le racisme, le colonialisme, contre les violences policières aussi. On passe du 13e au 21e siècle, d'Afrique à l'Europe, des États-Unis aux Antilles ou à Haïti. Black Label est à l'origine un recueil du poète Léon Gontran Damas, mais ici on entend aussi résonner les mots d'Aimé Césaire, James Baldwin, Malcolm X, Eva Doumbia ou Assa Traoré. Le spectacle a été créé au Théâtre du Nord. Conception et mise en scène signée David Bobet et Joe Starr. Ils sont avec nous sur le Pont des Arts. Bonjour et bienvenue à Bonjour. Tous les deux sur RFI. Merci d'avoir accepté notre invitation. Joe Starr, c'est votre voix qui porte une bonne partie de ces textes. On va entendre tout à l'heure à quel point vous les faites vibrer sur scène. On se souvient évidemment de vous dans les années 90, vous, rappeur avec NTM. On vous a vu au cinéma, on vous a vu à la télévision. Le théâtre, c'est une révélation relativement récente pour vous. C'est David Bobet qui vous y a entraîné ?
Oui, c'est entre autres David, oui, effectivement. Et puis effectivement, c'est très récent pour moi. Mais je ne peux plus m'en passer à l'heure d'aujourd'hui.
C'est votre nouveau mode d'expression favori ?
On va dire oui. J'y trouve ce qui me manque de ce que j'avais dans les années 90. C'est-à-dire que nous, on faisait de la musique pour la jouer essentiellement. Voilà, et puis pour dire aussi les choses. Et je m'y retrouve assez à l'heure d'aujourd'hui. Il y a quelque chose de plus immédiat par rapport au cinéma, justement, qui est intéressant. C'est-à-dire qu'il faut, quand on monte sur scène, il faut savoir appuyer sur cet interrupteur qui nous désinhibe tout de suite. Et puis,
Et puis tenir, quoi. Pendant les deux heures.
Donc voilà, et puis les sensations sont aussi différentes. Et ce que j'adore, moi, dans l'idée de travailler avec David, c'est qu'on n'est jamais seulement... Enfin, on a toujours ces sujets qui sont bien lourds et bien graves et qu'on arrive à mettre en spectacle. Voilà. Et donc, c'est un beau véhicule.
Et vous retrouvez effectivement le metteur en scène avec qui vous aviez interprété il y a quelques années Elephant Man, David Bobet. Ce projet de Black Label, vous l'avez porté vraiment ensemble? Le choix des textes, la mise en scène, ça s'est fait à deux?
Oui, complètement à deux. En fait, ça commence avec Elephant Man, qui déjà posait la question de la monstruosité sociale et du rejet. Et avec Didier, on est resté très 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 proches, liés d'amitié, mais aussi réunis par une passion commune et pour la littérature et pour les outils de la lutte contre le racisme. Donc on s'est échangé beaucoup, beaucoup de textes. Et puis à un moment, on s'est dit, il faut en faire quelque chose.
Il faut en faire un spectacle. David Bobet, Joe Starr, on va passer également dans cette émission par le Nigeria pour découvrir une figure montante de l'art contemporain, Daniel Pengrafer Oshundaro, que notre correspondant Moïse Gomis est allé rencontrer. Et puis l'actualité du roman policier avec Catherine Fruchon-Toussaint. Bonjour Catherine.
Bonjour Nathalie, bonjour à toutes et à tous.
Votre café polar du jour nous emmène en Suisse.
Oui, où se déroule le nouveau roman de Nicolas Lebel, une fiction glaçante sur la manipulation des personnes fragiles et sur une association de tueurs en série qui, figurez-vous, eux sont plutôt attachants. Bref, un polar pas ordinaire intitulé La Ruche.
Les abeilles.
La Ruche dans notre café polar du jour. À tout à l'heure, Catherine.
RFI sur le Pont des Arts.
Article 1. Les chasseurs déclarent « Toute vie est une vie. Il est vrai qu'une vie apparaît à l'existence avant une autre vie. Mais une vie n'est pas plus ancienne, plus respectable qu'une autre vie. De même qu'une vie n'est pas supérieure à une autre vie. Article 2. Les chasseurs déclarent.
Et voilà comment on entre dans ce spectacle Black Label avec un extrait de la charte du Mandaine qui remonte à la fondation de l'Empire du Mali, un serment que les griots se sont transmis de génération en génération. C'est extrêmement fort. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de débuter avec ça ?
Parce que Black Label est un voyage, un voyage qui suit les diasporas africaines et qui suit ces peuples dans leur lutte pour rétablir une forme d'égalité, affirmer une forme de dignité. Et ça commence en 1222, effectivement, avec la charte du Mandaine, qui est la première déclaration des droits humains de notre histoire de l'humanité. Et déjà, dès la première scène, ça crée un renversement qui montre un point de départ à partir duquel on va raconter par les auteurs et les autrices qui ont écrit ces textes, l'histoire de l'esclavagisme, du colonialisme, ouais, et se balader dans le monde.
Parce qu'il est question dans cette charte de respect des libertés individuelles, de respect des minorités, d'égalité devant la loi. C'est une déclaration des droits de l'homme avant la déclaration universelle de 1948.
C'est cet écho qui nous vient de 1221, effectivement. Et où ça raconte aussi que l'esclavage est né aussi en Afrique, entre Africains. Et je crois qu'on démarre sur ces racines-là, justement, pour emmener toutes les autres paroles et l'idée qu'on veut véhiculer à propos de la dignité humaine.
Parce que ça nous dit aussi que la colonisation a gommé cet héritage africain, là.
Entre autres, enfin, que ce soit culturel, au niveau de la culture, au niveau du savoir-faire, et puis a gommé aussi la dignité humaine, quoi. Nous a aussi emmené vers cette idée de race supérieure, qui perdure encore aujourd'hui, quoi. D'ailleurs, qui perdure bien de nos jours encore.
Ouais, avec la charte du Mandaine, en tout cas, on pose le décor, hein, mais il y a dans Black Label une vingtaine de textes, des références, littéraires et militantes, plutôt, c'est ça que je voulais dire. Tout le spectacle s'articule autour de ces textes, il n'y a pas de commentaires, en fait. C'est le texte brut, avec la mise en musique, avec les effets, évidemment, de scénographie. Comment est-ce que vous avez sélectionné ces textes ? C'est Léon Gontran Damas et son Black Label, son recueil de poèmes qui ont été votre point de départ.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Et puis, la sélection,
c'est présente pour vous ce recueil de poèmes et ce poète-là en particulier.
Ah ben, c'est vaste parce que moi, ce que j'aime, c'est que par le biais de il met l'histoire en situation par ce soir j'ai bu et de bar en bar et de verre en verre. Et là, il déverse tout, et j'adore la manière dont, en fait, on reçoit tout ça, parce que par le biais de ce prétexte qui est, on va dire, l'alcool, il donne l'impression de divaguer, mais en fait, il va très loin, quoi.
Dans la divagation, dit des vérités.
Des vérités, voilà.
Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est vrai que Léon Gontran Damas, ça a été un des initiateurs, un des fondateurs du mouvement de la négritude, dont on entend aussi d'autres voix, Aimé Césaire.
Tout en ayant eu des hautes fonctions aussi, enfin voilà.
Exactement, puisqu'il était également engagé en politique. Ouais. Progression chronologique, on l'a dit, progression thématique, colonialisme, racisme, exploitation de la main-d'œuvre du temps de l'esclavage. C'est un spectacle.
Ce qu'il faut aussi préciser, c'est sur la fin du spectacle, on raconte toujours à travers ces textes le résidu social que ça crée encore aujourd'hui et le fait que tout le monde est concerné par cette histoire, que c'est pas une histoire entre Africains et Afro-descendants.
Absolument.
C'est aussi un pan de l'histoire humaine qui nous amène à la situation sociale, la lecture de l'un et de l'autre, les histoires de migration aussi, voilà quoi.
Et on va y venir, évidemment, on va l'évoquer, mais je prenais mon temps parce que c'est aussi un spectacle qui prend son temps, je trouve, où les silences ont vraiment de l'importance. Parfois, pendant la lecture des textes, David Bobet, vous et Joël Star, d'ailleurs, puisque vous avez participé aussi à la mise en scène, on voit défiler des images d'archives, des images de la traite des esclaves, de l'exposition coloniale, des dessins, des photos, des visages. Il y a eu aussi tout ce travail iconographique et documentaire qui a précédé le...
Il y a un énorme travail de recherche et littéraire et aussi iconographique. On avait besoin de cette nourriture-là. On avait sélectionné énormément de textes. Puis au premier jour des répétitions, on est arrivé à une centaine de textes. Et le travail sur le plateau nous en a fait effectivement sélectionner ce montage-là. Le point de départ, effectivement, c'est Black Label de Damas. Et je crois que tout le spectacle est empreint de, à la fois, la qualité littéraire et poétique de ses écrits et à la fois de sa colère. Et je crois que c'est un spectacle sur la colère. Il y a cette idée que la colère peut nous permettre de lutter contre la haine, que la colère naît d'un sentiment d'injustice et cherche à rétablir une forme d'équilibre, là où la haine ne cherche qu'à détruire. C'est une idée d'Audre Lorde et ça nous a porté dans le choix des textes qu'on a voulu un peu agencer de façon chronologique pour essayer de comprendre un peu cette histoire des peuples noirs si souvent invisibilisés et presque mettre en lumière dans un acte d'humilité. Les vraies stars, c'est les auteurs et les autrices, celles et ceux qui ont par leur plume essayé de résister à la violence d'états racistes et de leurs bras armés. Et je crois que c'est important, comme un espèce d'héritage, de transmettre ça à ceux et celles qui, aujourd'hui, veulent lutter contre l'arrivée du racisme, contre la montée du Rassemblement national, et qui ont besoin d'avoir des racines de leur lutte.
Il y a une énergie incroyable qui se dégage de ce spectacle.
On parle de musique, d'image en plus, mais qu'en fait, on est justement, on a mis en avant ces textes et ces auteurs. Le décor est très minimaliste, en fait.
Oui, absolument.
On amène des ambiances avec les images, avec la musique, mais le décor est tout noir.
Et c'est le texte qui a évidemment la première place. Il y a une énergie folle, je le disais, qui se dégage de à la fois de cette mise en scène et de ces lectures. Joe Starr, on écoute un nouvel extrait, Black Label.
Ce soir, il se passe quelque chose. La poésie est une arme de construction massive. Mes camarades et moi-même allons enfreindre le silence. Et déjà, la pénombre me demande pardon. Profession, poète cracheur de feu, lointain descendant d'un griot dragon. Ce soir comme hier, comme tant et tant d'autres soirs passés, ou de bouche en bouche, ou de bar en bar, ou de verre en verre, je saoulais ma peine. Mort au cancre, au pouls, mort au chancre, au fou, et sus au dévoyé.
Voilà, et Joe Starr qui scande les mots en studio, qui scande encore en studio les mots de Léon Gontran Damas. On sent que, on parlait de colère tout à l'heure, qu'il y a dans votre interprétation votre colère et vos tripes. C'est plus qu'une pièce de théâtre, Black Label.
J'ai peut-être un mode de communication qui passe souvent par la virulence parce que. Parce que c'est mon mode de communication, mais. Là, comme vous entendez, on n'est pas encore dans la colère là. On est en train de faire monter.
Que les prémices.
On est en train de faire monter
les prémices de la colère.
Monter l'histoire.
Ouais. La poésie est une arme de construction massive.
Elle peut changer. C'est une phrase de Soleiman Diamanka, effectivement. Ouais. Oui, elle peut changer les choses. Oui, je pense. Moi, pour ma part, elle a changé ma vie, moi. J'ai arrêté l'école après la troisième. On peut pas dire que je suis au départ un littéraire ou... Enfin, voilà, quoi. Et je me suis construit tout seul, justement, en posant mes pensées sur des rythmes, entre autres. Et justement, j'ai réappris le français... En ce sens, voilà, parce que j'avais besoin de parler, j'avais besoin d'exister, j'avais besoin de m'inscrire dans ma légende personnelle. Donc oui, je dis les mots, la poésie. De toute façon, tout le monde sait que un tableau, une image peut parfois changer toute une trajectoire. Ben voilà, c'est ce qui m'est arrivé à travers la poésie, effectivement.
C'est ce qui vous est arrivé à vous, et la poésie, elle pourrait détourner du racisme.
Ah ouais, je pense aussi. Je pense que tous ces textes qu'on livre, à mon avis, ont œuvré justement, peut-être pas pour le camp d'en face, mais peut-être pour les... Enfin, je pense qu'au niveau des droits civiques, je vais prendre cet exemple-là, je pense qu'il y a une certaine lecture qui a été faite par les opprimés, par le biais de ces textes, qui ont pu les porter dans leur regard sur l'autre, dans leur regard sur la distance... par rapport à la, ce qu'on disait tout à l'heure, la colère, la haine, et ainsi de suite. Ouais, je pense que ça.
Si certains échos en arrivent ailleurs, c'est pas mal. La mission
ouais,
est accomplie.
Ouais, je pense toujours. Moi, je vois que, à l'heure d'aujourd'hui, je rencontre encore plein de gens qui me disent, votre musique m'a beaucoup aidé, et ainsi de suite. Donc, avant que ce soit juste un rythme et quelqu'un qui soit virulent dessus, c'est avant tout des mots. Et je pense que plein de gens se sont retrouvés à travers ça. Et quand on me dit, bon voilà, c'est vertigineux pour moi de l'entendre, mais quand on me dit, ouais, ça m'a aidé, c'est que je me dis, voilà, certains n'ont pas entendu juste quelque chose qui était en.
Juste un
en
divertissement.
Augmenté et qui était violent, mais plutôt juste les mots, quoi, qui sont allés voir derrière le mur, où il y a le mur NTM, dont ni ta mère, voir le pommier qui était, on va dire, oh là là.
On est dans la poésie, là, décidément. David Bobet, c'est votre rayon, j'allais dire, le théâtre militant depuis toujours.
Oui, oui, je crois que le théâtre peut changer le monde, rien que ça et rien de moins. Et on le sait que la puissance des mots peuvent nous permettre d'obtenir des outils d'action sur le monde. Notre histoire est faite de grands discours, de grands textes, de grands récits. Et cette pièce-là, comme aussi d'autres que j'ai pu faire, contribue à remettre en lumière des parts oubliées, des parts des zones d'ombre de notre histoire, nous raconter nos récits multiples, et d'une certaine façon nous donner des outils intellectuels pour lutter contre la culturation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, qui permettent de faire advenir le pire de notre humanité. 1, 2, 3, 4. Egbe, egbe, yase, egbe, egbe. Egbe, 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 egbe. Egbe, egbe, yase, egbe, egbe. Egbe, egbe, yase, egbe, egbe.
Voilà, dans la playlist RFI du mois, Emi Aluta, les Nigérians du groupe Égypte 80, fondé par Fela Kuti, aujourd'hui dirigé par son fils Seun Kuti, sur le Pont des Arts avec David Bobet et Joe Star pour la pièce Black Label, une pièce qui donne corps à l'histoire, on le disait tout à l'heure, l'histoire de Tiaroy, notamment le massacre des tirailleurs sénégalais par l'armée coloniale en 44. Avec ce récit, dans la voix de Nicolas Mumbunu, on est quelques jours avant le massacre, les combattants africains sont encore sur le sol français et ils comprennent qu'ils vont être remplacés par des soldats blancs.
Un matin, un groupe de jeunes blancs nouvellement recrutés est arrivé. Sous les ordres des officiers blancs, on s'est mis en rang. Tous les camarades noirs. Chacun avait un jeune blanc devant lui. Sous les ordres des officiers blancs, ils ont enlevé leur tenue civile. Nous aussi, on l'a enlevé tout et posé à terre nos vêtements, nos armes et nos munitions. Les nouvelles recrues blanches les ont ramassées et enfilées. Nous devions enfiler leur tenue civile. Aucun de mes camarades ne voulait partir. On voulait continuer la guerre jusqu'à la victoire finale, libérer Paris. Mais c'est comme ça. Les ordres sont les ordres. Ils ont dit au commandant des troupes, Jean de Lattre, que ce sont des ordres venant du Très-Haut, du général de Gaulle lui-même. Ils ont dit que nous sommes physiquement inaptes en saison froide et que les villes ont une mauvaise influence sur nous. Ils disent comme ça que c'est le froid, mais bon, tout le monde souffrait de froid. Tout le monde. Tous les enfants de la patrie. En réalité, une fois que la victoire est apparue à l'horizon, De Gaulle n'a pas voulu qu'on garde l'image d'une France libérée par une armée composée en 2/3 de Noirs. Cela porterait atteinte à sa grandeur. Il craignait aussi que le soldat noir, le soldat de la colonie, ait accès à la femme européenne. Cela serait dangereux pour l'ordre colonial.
Voilà, et ce texte est signé du dramaturge togolais Elémaoussi Agbidjidji. C'est la lettre du frère de caoutchouc vaincu par la neige à sa femme. C'est un texte dont je n'avais jamais entendu parler.
Du soldat
c'est vrai
caoutchouc.
Qu'il...
Du soldat caoutchouc.
Du soldat caoutchouc, pardon. Et il illustre cette loyauté presque aveugle du tirailleur sénégalais à la France, alors qu'il la sert militairement et alors qu'elle va le massacrer quelques jours plus tard.
Oui, qu'elle va le massacrer, surtout quand on sait qu'ils vont se faire massacrer parce qu'ils n'ont pas reçu leur solde et qu'ils se rebellent pour ça et que pour seule réponse, on leur a envoyé des douilles, quoi, on les a massacrés. Donc oui, effectivement.
Donc ce texte-là, il s'est évidemment imposé à vous, il n'y avait pas de débat.
Oui, bah, c'est un très beau texte qui parle de cette histoire importante, celle de la présence des tirailleurs au moment de...
Qu'on disait sénégalais, qui n'étaient pas tous sénégalais en plus.
Qui étaient voilà. Des tirailleurs
et africains. Ça met en lumière le blanchiment des armées, c'était ce geste d'un racisme absolu. C'est un texte essentiel.
Et donc Black Label a commencé à tourner avant le 80e anniversaire de Tiaroy et avant cette lettre de reconnaissance du président français à son homologue sénégalais qui a vraiment ouvert un débat au Sénégal. Est-ce que c'était suffisant? Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était pas trop tard? Est-ce que le bon geste n'aurait pas été aussi d'encourager la vérité historique sur cet épisode-là? Joe Star, David Bobé, puisqu'on en est au bilan et à l'examen de conscience de la France, vous dressez, on en parlait très brièvement au début de cette émission, celui des violences policières dans le spectacle. Il y a la lettre d'Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, tuée par des policiers en 2016. Mais il y a aussi, et c'est également un moment très fort de la pièce, tout l'historique de ces violences en France. Ziad Ebouna en 2005, plein d'autres noms, certains dont on a oublié la mémoire.
Mais surtout ça nous rend comptable de chaque année, en fait, le nombre de, et pas que de jeunes. Par exemple, on cite aussi une dame de 80 ans qui est morte à sa fenêtre à Marseille sur un tir de flashball perdu. Toutes les atrocités commises par la police parce que, à un moment donné, au niveau social, il y a des écarts, des différences de lecture, de traitement, effectivement. Et puis surtout, comme on le dit, toute délinquance ne mérite pas ça, quoi. Et puis surtout, cette délinquance qui est le refus d'obtempérer, entre autres.
Voilà, et vous posez la question avec Eva Doumbia, hein, si je ne me trompe pas, de qui sera le prochain. Voilà. C'est un texte d'Eva Doumbia que vous reprenez.
C'est un texte d'Eva Doumbia qui est une autrice et metteuse en scène formidable qui justement pose souvent la question du racisme et de l'héritage du racisme. Et c'est vrai qu'il est peut-être facile et condamnable d'imaginer que le racisme se trouve dans les pages d'histoire, parce qu'on en est encore les héritiers, les héritières aujourd'hui, et que ce racisme systémique dont nous bénéficions continue à produire de l'horreur. Et c'est intéressant de voir dans le public, d'ailleurs, ce qui se passe lorsqu'on parle de l'esclavagisme, du colonialisme. Tout le monde est d'accord et tout le monde acquiesce. Et lorsqu'on parle
des traductions contemporaines
de ce même racisme, alors là, ça commence à grincer. C'est là-dessus qu'il faut appuyer.
Vous avez des réactions dans le public quand vous évoquez ces violences policières, quand il y a ces espèces de silhouettes sur scène, ces silhouettes sans visage qui figurent justement.
Oui, bien sûr, c'est là où il y a le plus de questions, hein, et notamment chez les jeunes, sur quels sont les outils aujourd'hui pour lutter contre ce racisme qui continue de s'opérer, et notamment dans les rangs de la police. Bien sûr que ça fait davantage réagir, mais le public globalement il est plutôt debout et à hurler sa ferveur à la fin, parce que on vit un moment de communion, et encore une fois qu'il est bon de nous rappeler d'où viennent nos combats pour se donner de la force aujourd'hui.
C'est un
puis
public...
c'est surtout aussi, moi j'ai vu beaucoup de gens qui étaient surpris de ne pas savoir tout ça en fait. J'ai même rencontré il y a des gens du corps enseignant qui sont venus me voir en me disant, mais vous nous avez donné une leçon d'histoire en augmenté. On trouve pas normal de pas enseigner certaines choses. Peut-être on peut pas faire tout ça dans son entièreté, mais certaines choses justement qui justifieraient pas mal de choses, ne serait-ce qu'au niveau de la colonisation.
J'allais y venir justement à l'éducation. Il y a à un moment donné un texte de Malcolm X, hein, si je me trompe pas, qui parle pour expliquer le racisme de méséducation. L'éducation à la tolérance, l'éducation à l'antiracisme et tout simplement l'enseignement de l'histoire, ils sont pas à la hauteur pour vous aujourd'hui dans la France de 2025?
Des trous dans les livres d'histoire dans les écoles, évidemment que non, ils ne sont pas à la hauteur. Et laisser ces trous apparents, ça nous empêche en fait de savoir d'où on vient, de savoir comment on peut se bagarrer aujourd'hui. C'est évidemment extrêmement important, parce que ça laisse la place libre à des idéologies qui voudraient nous faire croire qu'il y aurait une lignée unique et une forme de pureté et une forme de récit national complètement fictionnel et qui ne sert que l'idéologie de la haine.
Mais surtout quand on voit qu'encore aujourd'hui, on enseigne à de jeunes enfants à Nouméa ou à Fort-de-France, nos ancêtres les Gaulois, on se dit effectivement que ce n'est pas très adapté tout ça, quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas passer par là, mais je dis selon l'endroit, il y a une manière d'amener tout ça, quoi. Voilà. Frappé, valsé, en palalie, en l'amour. Tout peut joindre à ton chimel et miéo, tout peut joindre. Tout peut joindre à ton chimel et lumière. L'humanité semblait, les nous j'assemblais, pas brillé, pas frappé. Les nous qu'a crié, l'humanité semblait, les nous j'assemblais, pas brillé, pas frappé. Oulo, oulo, oulé, dédé, oulo, dé. Il est au calène. Oulo, oulo, oulé, il est oulo. Il est au calais. Les cavaliers rentrent rivés dans ces pièges où valois. Montagne pelle les caveglés. L'histoire, ça qui passait.
Voilà, Célène Saint-Aimé à la contrebasse et au chant, on n'avait pas cité son nom. Il y a aussi pour la langue des signes, Jules Turlet, et là on est au complet sur, sur le casting de Black Label à peu près.
Nicolas Boulas Mumbounou aussi, qui est
danseur, qu'on a entendu tout à l'heure.
Ouais. Danseur, acteur et chanteur.
On va partir, si vous le voulez bien, tout de suite pour le Nigeria.
I'm on live video.
Lagos, plus exactement, où se tient jusqu'à la fin du mois de mars dans la galerie de Temple Muse l'exposition Renaissance Reform de Daniel Pengrafer Oshundaro. Bonjour Moïse Gomis.
Bonjour Nathalie.
Alors Daniel Pengrafer Oshundaro, c'est une figure émergente de l'art contemporain Made in Nigeria, un artiste multidisciplinaire. Vous l'avez rencontré, Moïse, en pleine création d'un tableau en triptyque.
Oui, parce que dans son corps, trois personnages cohabitent. Daniel, Pengrafer, Oshundaro. Et ce jour-là, les trois étaient en harmonie. Morceau de charbon au bout des doigts, ce jeune artiste apporte les dernières retouches aux trois panneaux formant cette toile commencée au vernissage de son exposition. Il ose même ajouter des scarifications sur le visage de la Joconde. Daniel Pengrafer Oshundaro performe en direct sur Instagram.
Je ne faisais donc qu'exprimer la scène, le dernier repas de Jésus, sous une forme différente. J'ai ajouté la Joconde, Dali et ensuite Pals. Mais en même temps, ce sont les émotions de Mona Lisa que j'ai ressenties en arrivant à Lagos. Le Lagos que j'avais en tête était comme un gros éléphant bruyant, alors que la mégapole que j'ai retrouvée était plutôt comme un chaton quand je suis arrivé. C'est donc comme si je mettais dans cette scène différents éléments de ce que j'ai vraiment ressenti en arrivant.
Moïse, Daniel Pengrafer Oshundaro n'avait plus mis les pieds au Nigeria depuis 4 ans. Pourquoi cet exil ?
Pour la bonne cause, Nathalie. Après une licence d'art à l'université de Lagos, Daniel obtient une bourse pour l'Académie des arts de Novi Sad en Serbie en 2021. Car le début de reconnaissance qu'il a au Nigeria à l'époque ne suffit pas à ce créateur prolifique. Son travail couvre le surréalisme, l'abstraction figurative, le graffiti, la sculpture et la photographie créative. En Europe, sorti de sa zone africaine de confort, l'étudiant Daniel Pengrafer Oshundaro se révèle. Ses créations sont remarquées par les fameux collectionneurs d'art, les frères Sachi. Oshundaro est mis en lumière en 2023 dans la fameuse galerie de Berlin, M&C Sachi.
En tant qu'artiste, vous devez tout ressentir avant de pouvoir créer quelque chose. Il est impossible de s'asseoir dans sa chambre et d'imaginer des choses si on ne les ressent pas. Il faut aller dans le monde et le sentir. Et lorsque je suis capable de ressentir, je suis capable de savoir ce que je crée. Je ne simule pas les sentiments que je mets sur la toile, dans la sculpture ou dans n'importe quelle autre création. Pour moi, il faut élargir son horizon. Il faut accumuler beaucoup d'expériences de vie. Une fois que vous aurez acquis ces connaissances, vous serez en mesure de créer des choses. Vous ressentirez toujours le besoin constant de créer. Les idées ne cesseront d'affluer. Et je ne pense pas que vous aurez ce que nous appelons un blocage créatif.
Je ne pense pas que vous aurez ce qu'on appelle un creative block.
Moïse, dans chaque œuvre de Daniel Pengrafer Oshundaro, il y a un personnage récurrent. On a entendu son nom d'ailleurs tout à l'heure, c'est Pals. C'est une sorte d'avatar dont le visage se retrouve sur les peintures, les sculptures ou les photos de l'artiste de Lagos qui mène en parallèle une carrière de professeur d'art et de DJ en Serbie.
Effectivement, Pals, c'est la signature de Daniel Pengrafer Oshundaro. Chacune de ses compositions est audacieuse et donne à réfléchir. Ce personnage, Pals, que Daniel appelle aussi Pain Pals, symbolise le pont entre le passé et le présent, la permanence et la transformation.
Pen Pals, c'est une autobiographie de moi-même. C'est comme la retransformation des sentiments et la façon dont je peux m'exprimer avec différentes figurines au lieu d'utiliser les mots et la bouche. Pals se présente avec la même tête constante, mais dans différents corps, différentes situations, différents scénarios dans lesquels j'ai été, comme le soldat, comme la chasseuse. Ce n'est pas seulement une figurine qui s'appelle Pals. Pals, ce n'est pas seulement moi. C'est toute une communauté qui se retrouve dans une figurine.
Et cette exposition de Daniel Pengrafer Oshundaro est visible à Lagos jusqu'au 30 mars à la galerie de Temple Muse. Vous pouvez aussi suivre son travail sur Instagram où il dévoile les coulisses de Renaissance Reform. Merci Moïse Gomis, à très bientôt.
À bientôt Nathalie.
Then no fit touch my energy. Agba, I've only died. If I no get money, na disability. Baba, so forget me, my shy blocky. My lost out, ready for one cow. Agba be a cow. My updates go live power. One it, one power. Take them to your cow.
Voilà, on était encore au Nigeria avec le dernier titre de Burna Boy, Update. Joey Star, ça vous plaît, Burna Boy? Ça fait partie des choses que vous écoutez, sur lesquelles vous pouvez vous ambiancer?
J'écoute ça quand je sors, c'est pas ce que j'écoute spécialement chez moi, mais ouais, quand je sors, ouais. L'effet de groupe, ça marche bien sur moi.
Avec Burna Boy. Et cet artiste plasticien qui scarifie la Joconde dans cette expo à Lagos, ça vous inspire?
Bah justement, j'allais vous demander son nom pour le suivre sur Instagram, en fait.
Voilà, Daniel Pengrafer Ushundaro. Voici notre dose hebdomadaire de Café Polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Catherine Fruchon-Toussaint, aujourd'hui vous nous parlez d'un polar qui mêle judicieusement espionnage, débat de société et humour noir.
Oui, un roman signé de l'écrivain Nicolas Lebel qui vient de paraître aux éditions du Masque sous le titre La Ruche et qui marque le retour des furies.
On ne naît pas furie, on le devient.
Voilà, et cette ruche, on la découvre à l'occasion de la nouvelle aventure d'Yvonne Chen et de ce groupe mystérieux, les Furies. Catherine, qui sont ces personnages?
Ce sont les protagonistes d'une série initiée par l'auteur depuis quelques années qui met en scène Yvonne Chen, une policière au caractère bien trempé et qui, après avoir pourchasser cette étrange association de tueurs à gages, les Furies, lors des romans précédents, se retrouve dans cette nouvelle affaire associée à ce mystérieux trio qui œuvre dans l'ombre et souvent pour le mal. J'ai demandé à Nicolas Lebel de nous dire qui étaient ces Furies.
Les Furies, c'est une référence mythologique. Hein. On a des Furies, les déesses de la vengeance. C'est un petit coup d'intox, cette appellation. Elles sont surtout là pour faire des contrats juteux, remplir des contrats juteux, d'assassinat en particulier, mais pas que, enfumage, intoxication, destruction de réputation. En fait, on reconnaît un petit peu nos services secrets de par le monde, mais eux font ça pour le privé, pour leur bien propre et pour leurs finances. Et évidemment, Yvonne Chen n'a aucune envie de rejoindre ce groupe jusqu'au moment où Alecto, le chef, lui explique que finalement, ils vont s'amender et qu'on peut gagner de l'argent en faisant aussi le bien. Et c'est peut-être là qu'elle va commencer à transiger pour rentrer dans le groupe. Ils sont trois au départ, Tisiphone, Mégara et Alecto, donc les trois déesses de la vengeance. Et petit à petit, ils vont faire une place pour Némésis.
Voilà, Némésis, le nouveau nom de code d'Yvonne Chen, qui finalement ne travaille plus dans la police officiellement, mais qui va devoir ici aider les Furies dans une affaire de meurtre en série spectaculaire. Dans quel sens, Catherine, va-t-elle les aider?
Eh bien, dans le sens qui fait froid dans le dos. Pour que vous compreniez, je vous décris la première scène. Ça commence à Genève, en Suisse, dans un quartier chic. Un homme, a priori ordinaire, marche dans la rue. Il s'arrête devant un mendiant, lui donne son portefeuille. Puis, contre toute attente, il se déshabille entièrement, se dirige vers un restaurant, se plante devant la vitrine et il tire avec une arme sur un homme en train de dîner en famille. Puis il retourne le revolver contre lui et se suicide. Stupeur pour la police, sauf que l'on apprend très vite que 10 jours plus tôt, il y a eu le même type de scène avec une femme qui, toujours dans la rue, en a tué une autre avant de mettre fin à ses jours. Et a priori, aucun lien ni entre les victimes, ni entre les assassins qui ne semblent pas du tout se connaître, comme si une folie s'était emparée de leur esprit. Mais d'où lui est venu ce scénario effrayant, Nicolas Lebel?
L'auteur de Polar est poreux à l'actualité. Des gens qui sortent une arme aujourd'hui et qui tuent un quidam, malheureusement, c'est une info qu'on a chaque semaine avec des gens qui sont poignardés dans la rue. On est aujourd'hui dans un monde qui est très violent, on le sait. Il ne faut pas se voiler la face. Et c'est de ce monde-là que je parle. Ici, bien évidemment, on n'est pas sur du terrorisme, on est sur autre chose. Mais on est sur cette même crainte que, tout à coup, le kidam, celui qu'on croise dans la rue, va tout à coup sortir une arme pour nous abattre. Pour quelle raison? Pourquoi? Il ne nous connaît pas. Alors bien évidemment, ça sera révélé dans le livre, hein. Tout ça c'est orchestré, organisé par d'autres dans l'ombre, mais on a cette mort qui frappe, cette mort anonyme, quand deux inconnus se croisent et les deux meurent, l'un tue l'autre avant de se tuer.
Donc c'est un cauchemar contemporain.
C'est un cauchemar complètement contemporain, je crois que c'est une bonne définition du polar.
Voilà, Nicolas Lebel s'attaque à nos pires frayeurs. Catherine, mais pourquoi a-t-il implanté, lui qui est français, son roman spécialement en Suisse?
Pour une raison très simple, c'est que la Suisse, en plus de ses chocolats, de ses banques célèbres pour leurs secrets bancaires dans le monde entier, la Suisse donc est un pays qui, depuis 1918, a légiféré le droit à la fin de vie, où les personnes qui le souhaitent peuvent être assistées dans leur choix de mourir. Et c'est un choix qui n'existe pas en France. Est-ce que, entre les lignes, c'est un petit tac là à notre gouvernement et à sa politique, Nicolas Lebel?
Oui, tout à fait. Alors, à la politique, pas seulement, à la société française. À la politique, oui, parce qu'elle a mis fin au débat à cause de la dissolution et que, voilà, finalement, le débat revient un petit peu en ce moment à l'Assemblée parce qu'il y a quand même des groupes qui font pression pour que ce débat ait lieu et pour qu'on avance sur ce terrain-là. Est-ce que la société française est prête à l'accepter? Je crois qu'on est, on commence à accepter cette idée et que le législateur bientôt la rendra légale. La Suisse a déjà, donc, depuis presque plus d'un siècle, choisi cette aide à mourir. La Belgique également, même si je me souviens bien, la Belgique limite ce cadre à ses résidents, à ses citoyens. En Suisse, il y a des gens qui viennent du monde entier demander cette aide. On parle de tourisme de la mort dans la presse suisse, puisque les demandes sont énormes et que des associations se montent pour essayer d'aider tous ces gens qui sont en demande. Mais voilà, la France est encore derrière sur ce débat.
Voilà, il aborde donc, Nicolas Lebel, un débat de société important, Catherine, tout en détournant aussi pour les besoins du roman le bon côté de la loi. Je crois que c'est là qu'on comprend le sens du titre La Ruche.
Exactement, parce que derrière toute avancée sociale et humaniste, il y a des personnes cyniques qui en profitent. Et c'est ce que raconte l'auteur ici. En imaginant une société secrète, concurrente des furies, nommée ici La Ruche, donc organisée comme une pyramide, avec tout en haut une reine qui aurait de nombreuses abeilles ouvrières à son service. Et sur le principe de profiter du malheur des uns pour faire son bonheur à elle, ces abeilles iraient recruter les personnes fragiles en fin de vie pour leur proposer un pacte diabolique. Et c'est ce pacte que Yvonne Chen et ses acolytes doivent découvrir pour démanteler le réseau. Et tout cela dans un style très caustique, car l'auteur passe du noir au rire avec une grande souplesse, ce qui est un peu sa marque de fabrique, Nicolas Lebel.
Oui, je crois que j'essaie de mettre un petit peu d'humour dans ces polars, parce que à la fin, il ne reste que ça. Hein. On a effectivement possibilité de se défendre politiquement, de débattre, de parler, mais malheureusement, face à l'horreur, parfois, il ne reste que ça, ce cynisme, cette capacité à prendre sur nous, parce que l'humour et la politesse du désespoir, disait l'autre des proches, eh bien, je le crois.
Voilà, l'humour, bah quand on est comme vous, Catherine, plongée toute la semaine dans des polars, j'imagine que c'est apprécié. Vous l'avez apprécié d'ailleurs, particulièrement dans la description des personnages.
Oui, ces personnages qui sont toujours à la limite. On ne sait pas si on les déteste ou si on les adore, s'ils sont attachants ou ridicules. Par exemple, parmi d'autres, celui d'un jeune policier suisse qui ne peut travailler que s'il écoute dans une oreillette de la guitare électrique à fond, tout en mangeant toute la journée des paquets de gâteaux industriels. Un comble quand même pour le pays du chocolat. Et puis il y a Yvonne Chen de son côté qui est plutôt pète sec. Et elle s'enfile des litres de mojito. Et du coup, j'ai demandé à l'auteur,
nul n'est parfait,
à quoi il carburait, lui, pour écrire, Nicolas Lebel?
Vu que c'est beaucoup de travail, hein, malheureusement, je me prive de tout. Hein,
Attendez, je vais pas pleurer là.
Ouais,
quand même.
Non. Voilà, mais je mets même pas de musique. C'est très très austère en fait le moment où je travaille, où j'écris. Je suis seul et il n'y a pas de bruit. Et voilà, je bois de l'eau. On pourrait croire que dans le polar, non, on carbure au whisky. Non, j'attends d'avoir fini d'écrire pour passer au whisky.
En l'occurrence, ce n'est pas avec du whisky, mais peut-être avec de la bière que Nicolas Lebel portera un toast, avec modération bien sûr, ce samedi à Paris, puisque toute la journée, avec une quinzaine d'auteurs de romans noirs français, il participe à la rencontre Polar Beer, proposée par la brasserie Lettres dans le 19e arrondissement. C'est de 13h à minuit. Alors si vous êtes dans le coin, profitez-en. Et sinon, à lire ce roman La Ruche aux éditions du Masque et à écouter l'intégralité de ma rencontre avec Nicolas Lebel dans le podcast Café Polar.
Catherine, demain, au programme de Littérature sans frontières.
Demain, à l'occasion du Salon du Livre africain et du Printemps des Poètes, je reçois Véronique Tadjo pour son recueil intitulé Latérite, qui vient d'être réédité. Ce sont des poèmes qu'elle avait écrits lors d'une traversée entre Abidjan et Paris, en hommage à la culture Sénoufo et à la mémoire des griots. C'est un livre précieux à redécouvrir.
Le rendez-vous,
13h30, temps universel.
À demain, Catherine. Joey Star, David Bobet, je ne vais pas vous demander à quoi on carbure sur le plateau de Black Label.
Et
ni en coulisses.
Ah bah si, alors allez-y. Au mot, à la poésie.
Voilà. Et un petit peu au rhum que Didier.
Voilà, je ne sais pas de quoi tu parles, mais.
Pour stimuler la créativité un peu, toujours, voilà. Avec modération.
On l'a déclenché.
Black Label, en tout cas, est en tournée avec des dates à Lille, c'est ça, à partir du 15 mars.
Oui, dès ce week-end et toute la semaine prochaine sur une belle série. Et puis, c'est aussi l'occasion pour Didier, Joey Star, de répondre à l'invitation que je lui ai faite, de vraiment s'emparer de l'ensemble du théâtre et de proposer le spectacle qu'il a mis en scène, cette petite musique que personne n'entend, mais aussi une exposition au profit des enfants à Gaza, de proposer un menu avec le restaurant du théâtre, de proposer une signature de son roman graphique qui vient de sortir. Bref, voilà, Joey Star s'empare du théâtre et
ça sera une représentation augmentée de Black Label pour ses représentations à Lille, Joey Star, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui. C'est presque une contrainte par corps de la part de David à laquelle je réponds avec plaisir. Non, mais je rigole bien sûr. Non voilà. Mais effectivement, comme il le disait, comme je fais pas mal de choses en fait. Voilà, je vais pouvoir exposer les fruits de mon hyperactivité
Le roman graphique qui s'appelle
Super ton cœur.
C'est
5 contes éthyliques. Voilà.
Rester dans le thème. Et puis révélation à propos des furies dont on parlait avec Catherine Fruchon
j'étais pris pour la deuxième saison de Furie sur Netflix.
Ce sera à voir prochainement sur cette plateforme. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés par le studio de Radio France Internationale et bravo pour ce spectacle Black Label. On parlait du Salon du Livre Africain. Et bien demain, 15h10, temps universel, deux invités dans ce studio, le romancier sénégalais Farine Dao, auteur d'un premier roman assez remarqué, Le Dernier des Arts, qui explore les bas-fonds de la politique. Et puis Godofredo de Oliveira Neto, romancier lui aussi, et membre de l'Académie brésilienne. Il a écrit en français et en portugais. Ils seront avec nous. Damien Roucou était à la programmation, à la réalisation Pierre Plantier. Merci à eux. À suivre, le journal en français facile et Radio Foot avec Annie Gasselier. À demain.